Au quotidien, avec Hélène Denis.
Déjà 25 septembre 2025. Bonjour Mathieu Tessier.
Bonjour Hélène Denis, bonjour tout le monde.
Bonjour, bonjour. Et il y a Monique qui est avec nous dans ses cantons de l'Est. Paraît-il qu'elle a une vue formidable sur un arbre tout doré. Allô Monique?
Exactement. Oui, exactement Hélène, je suis vraiment choyée. Faut dire que les couleurs s'installent avec beaucoup de détermination,
oui.
Dans l'esprit. Oui, 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 il y a vraiment, ça change là. On a du rouge, on a du presque rouge vin, on a j'ai un orme devant moi qui est tout jaune et puis comme je vous disais. En aparté, c'est mon petit soleil en cette journée de grisaille.
Oui, un petit soleil juste pour vous, Monique. Un soleil privé, quoi.
Exactement, oui, oui.
Alors, Monique, de quoi il sera question avec vous ce matin?
Écoutez, peut-être qu'il arrive à certaines personnes, après 50 ans, de penser avec beaucoup d'attention à leur santé. Et qui commence à faire de l'exercice. Mais il y a certaines précautions que l'on devrait prendre, entre autres au niveau alimentaire, pour éviter de se blesser, entre autres au niveau des muscles. Et il y a une professeure de l'Université de Navarra, en Espagne, qui s'est penchée sur la question. Elle s'appelle Patricia Yarnos Esquiroz et elle a publié donc un article à ce sujet dans La Conversation. Alors, il faut exercer une certaine prudence, tout simplement, mais c'est intéressant, vous allez voir.
Ah oui, on en est sûr. Il y a Yvan Deslauriers qui sera avec nous à partir de 10h et des poussières. Yvan va nous parler du marathon de Montréal et, entre autres, de la personne la plus âgée qui a participé au marathon cette année, un homme de 88 ans. Aussi au menu, nous aurons une rencontre avec la metteur en scène Brigitte Hankins, femme de théâtre, femme de lettres, qui signe la mise en lecture et le montage du spectacle « Une famille à Bruxelles » qui met en vedette Monique Spaziani, qui est présentée dans le cadre du FIL, le Festival international de littérature, et qui sera présentée au Théâtre Outremont au début du mois d'octobre. Bien hâte de rencontrer cette femme qui viendra en studio, la belle grande visite. Et nous aurons aussi la chronique Parasport avec Dominique Tremblay, puisque c'est jeudi. Restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 11h et on y va avec Ariane Roy.
Croiser mes jambes lourdes me rassurent.
je rampe, une chanson d'Ariane Roy.
À la une de la presse plus de ce jeudi 25 septembre, en Estrie, même quartier, même symptôme. Un dossier extrêmement troublant, signé Ariane Lacourcière et Martin Tremblay. Plus de 20 personnes ayant vécu à la même époque dans un quartier de Windsor en Estrie ont développé des maladies rares ou neurologiques aux symptômes similaires. C'est ce que révèle l'enquête de la presse. Le plus souvent, la sclérose en plaques. Une cause commune se profile-t-elle derrière tous ces cas? Se demandent des résidents. La santé publique juge le questionnement légitime, mais la résolution du mystère est loin d'être garantie. Alors, on parle de sclérose en plaques. Il y a aussi la sclérose latérale amyotrophique dont il est question, la SLA, la démence frontotemporale, dis-je bien, ou d'autres maladies rares donc, qui pourraient avoir pour cause des facteurs environnementaux. L'ancienne usine de la Domtar à Windsor, dont la cheminée crachait de la fumée, est pointée du doigt, mais on n'a rien conclu à ce sujet. C'est pas nécessairement, il faut pas nécessairement faire de lien de cause à effet, nous dit la santé publique. C'est à lire dans la presse d'aujourd'hui. Un autre titre à la une de la presse plus, François Legault met la hache dans sa réforme du régime forestier. Texte de Charles Lecavalier. François Legault doit annoncer aujourd'hui qu'il mettra de côté le projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier qui avait suscité une levée de boucliers chez les experts environnementalistes, élus municipaux et Premières Nations. Selon des informations obtenues mercredi, cette décision sera communiquée dans un discours que le premier ministre prononcera devant les maires de la Fédération québécoise des municipalités qui sont réunis à Québec pour un colloque. Ils étaient parmi les opposants de ce projet de loi qu'ils jugeaient centralisateur. Au cabinet du premier ministre, on ne confirme rien, mais on n'infirme pas l'information par ailleurs. C'est le deuxième geste que François Legault fait pour mettre fin à la grogne dans les régions forestières. Déjà début septembre, il a écarté la députée Maïté Blanchette-Vizina de son conseil des ministres lors de son remaniement. C'est elle qui avait livré la réforme à la suite d'une consultation de près de 2 ans sur l'avenir de la forêt québécoise. Le projet de loi 97 avait pour objectif de donner de l'oxygène et de la prévisibilité à l'industrie. Il proposait notamment de réserver le tiers des forêts publiques à celles-ci pour faire de l'exploitation forestière intensive en s'appuyant sur le principe de la triade. Mais l'expert derrière ce concept, Christian Messier, chercheur réputé et professeur à l'UQAM et à l'UQO, a rapidement tourné le dos au gouvernement. Ça va être l'enfer. Il va y avoir un bris de confiance, a conclu M. Messier en mai dernier à propos du manque de consultation. Plusieurs ont également critiqué une absence de transparence. Allons-y donc avec Le Devoir maintenant. À sa une, l'efficacité de l'État, mot d'ordre à Québec. Le ménage prévu par le gouvernement Legault dans la fonction publique se concrétise peu à peu. Une entreprise vue d'un bon œil par le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, qui lui emboîtera le pas et en fera une priorité ces prochains mois au Parlement. Au ministère des Transports, Jonathan Julien compte éliminer l'équivalent de 200 postes à temps complet sur 8000. C'est une première étape. Il va y avoir d'autres phases. On parle d'occasionnel, de contractuel, puis on parle aussi d'effectifs réguliers qui, le cas échéant, vont être plus minoritaires, a indiqué M. Julien, précisant au passage qu'il souhaitait prioriser l'élimination de postes de gestionnaires avant tout. Le ministère de l'Environnement supprimera pour sa part l'équivalent de 134 postes, a confirmé le ministre Bernard Drainville. « On n'a pas le choix, il faut gérer plus efficacement », a-t-il affirmé. Interrogée à son tour, la ministre responsable de l'habitation, Sonia Bélanger, a affirmé que les compressions avaient déjà commencé à la Société de l'habitation du Québec. Il y a 2 semaines, dans un discours tenu après son remaniement ministériel, le premier ministre François Legault a demandé à France-Hélène Duranceau, nommée ministre responsable de l'efficacité de l'État, de couper profondément dans la bureaucratie. Il va falloir que chaque ministère fasse le ménage. Une idée qui plaît au chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Mercredi, à l'occasion du caucus de la rentrée de sa formation politique, il a placé l'efficacité de l'État au sommet de sa liste de priorités. L'État québécois va devoir recentrer ses activités, se recentrer sur ce qu'il y a de fondamental, soigner notre monde, s'occuper de nos tout-petits, s'occuper des aînés, a-t-il soutenu. Aussi, à la une du Devoir, commission Galant, Malenfant estime avoir été le bouc émissaire au terme des 6 jours de son témoignage. Karl Malenfant s'est dit convaincu que le rapport de la commission Galant montrera que la vérificatrice générale du Québec a fait de lui, à tort, le bouc émissaire de ce que tous connaissent aujourd'hui comme le fiasco « ça clique ». Dans le rapport de la vérificatrice générale, tout est de ma faute, mais quand on voit l'histoire, on voit que ce n'est pas la réalité, a confié l'ex-vice-président aux technologies en mêlée de presse mercredi. Après avoir livré sa version des faits devant le commissaire Denis Galant, M. Malenfant a dit être satisfait et avoir bon espoir que les Québécois comprennent qu'il a été injustement pointé du doigt pour les ratés de la Société de l'assurance automobile du Québec. « Je pense que vous avez vu que c'est pas mal une responsabilité partagée entre beaucoup de parties prenantes et beaucoup de joueurs. Je ne comprends pas encore aujourd'hui pourquoi j'ai été le seul paratonnerre de ce projet-là. » Et en conclusion de son témoignage, il s'est désolé que le déploiement chaotique de la plateforme Saclic ait terni le travail de centaines d'employés. Les 500 personnes qui ont contribué, elles méritaient au moins des félicitations. Elles ont travaillé des soirs, des fins de semaine. Elles y ont laissé leur santé et on ne leur a même pas dit merci. M. Malenfant a alors révélé souffrir d'un cancer du rein et avoir reporté une opération afin de se présenter devant la commission d'enquête. Il a également dit espérer qu'à terme, le narratif du virage numérique de la SAAC change. Aujourd'hui, tout fonctionne. Alors, ce serait le fun de changer le narratif et de dire que la SAAC est maintenant modernisée, que la SAAC est capable de regarder en avant, qu'elle a des technologies modernes, la plus moderne au gouvernement. J'aimerais ça l'entendre, a-t-il confié. Et finalement, la une du Journal de Montréal, le système de santé doit faire un wake-up call, 6 ans d'attente pour être opéré. Une femme de Laval a attendu 6 ans dans le réseau public avant de se faire enfin retirer l'excédent de peau qui lui faisait vivre l'enfer après avoir perdu 135 livres. Une histoire racontée par Héloïse Archambault. C'est l'histoire de Fanny Pépin.
Le temps est mort, je rêve tout croche, les frustrés laissent la mauvaise journée coller en dessous de nos souliers. Ça roule trop vite pour garder le sens, les bouches ouvertes et les claques sont fortes toujours, pressés pour patienter. Mais ça va. Tu m'attrapes, tu m'embrasses, toi vous êtes ma préférée, ça va.
Mais ça va,
Tu m'attrapes, tu m'embrasses, tu tiens ma main, peut-être c'est trop parisien, mais ça me fait du bien.
Patrick Watson et Solane pour la chanson « Ça va ».
Oui, tiré du prochain album de Patrick Watson qu'on a bien hâte de découvrir au grand complet, album intitulé « Huho ». J'ai aspiré le U. L'ai-tu aspiré ou je l'ai inspiré? En tout cas, c'est UH, espace OH. Et cet album sort le 26 septembre. Monique, c'est à vous. Que manger après 50 ans pour prévenir les blessures?
Oui, j'aurais dû ajouter « musculaire », Hélène.
Ah oui, OK. Ben, le titre dans la conversation, c'est « Que manger après 50 ans pour prévenir les blessures musculaires ». Bien oui, c'est un mot important.
Exactement. Alors, de plus en plus de personnes envisagent de faire de l'exercice physique après 50 ans. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que oui. Les différentes associations médicales, en tout cas, s'accordent à dire que c'est oui la réponse. L'exercice physique est non seulement essentiel pour prévenir les maladies, mais il est également recommandé dans le cadre du traitement de nombreuses pathologies. Cependant, commencer à bouger à ce moment-là de notre vie nécessite certaines précautions, surtout pour les personnes sédentaires, en surpoids ou obèses. Alors, adopter d'emblée un programme trop exigeant, combiné à une alimentation inadaptée, peut entraîner des blessures musculaires, comme l'indique le titre, mais aussi osseuses. Donc, après 50 ans, ce risque est accentué par la perte naturelle de masse musculaire et osseuse liée, malheureusement, au vieillissement, Hélène. Ah là là, et puis ça commence très jeune, hein, cette détérioration-là. Je pense que c'est autour de 35 ans, là. Alors, avant d'entamer tout programme d'exercice, il est donc conseillé de réaliser un bilan sanguin complet afin d'évaluer la nécessité d'une supplémentation en cas de carence en micronutriments. Peut-être vous demandez-vous qu'est-ce que ce sont ces micronutriments. Ben, c'est des vitamines et des minéraux dont l'organisme a besoin pour fonctionner correctement. Mais ces micronutriments ne fournissent pas d'énergie. Au-delà donc des micronutriments, l'organisme a besoin de macronutriments, soit des glucides, des lipides et des protéines. Les protéines en particulier apportent des acides aminés essentiels qui jouent un rôle clé dans le maintien et le développement des muscles. Les acides aminés essentiels, ben, c'est des éléments constitutifs, Hélène, des protéines. Elles aident aussi à prévenir la perte de masse et de force musculaire liée au vieillissement, un phénomène connu sous le nom de sarcopénie, souvent associée à la fragilité ainsi que les lésions musculaires et l'ostéoporose. Les besoins en protéines varient en fonction de la situation clinique de l'individu. Chez les personnes actives de plus de 50 ans qui ont une activité physique modérée, les besoins en protéines sont compris entre 1 et 1,5 g par kilo de poids corporel par jour. Alors, à vous de faire votre calcul. Mais attention, un apport accru en protéines n'est justifié que s'il est accompagné d'une activité physique. Un excès de protéines peut avoir des effets contre-productifs, en particulier sur la santé osseuse, notamment en augmentant la perte de calcium par les urines. Il est recommandé de combiner les aliments d'origine végétale comme le soya, les lentilles, les graines de courge, les cacahuètes et animales comme les œufs, les laitages, la volaille, le poisson pour un apport protéique équilibré. D'autre part, bien que l'idéal soit d'avoir une alimentation équilibrée entre les deux types de nutriments, il a été démontré que le respect des recommandations diététiques végétariennes est compatible avec la pratique du sport de haut niveau s'il y a un suivi médico-nutritionnel adéquat. Il faut faire aussi attention au moment de consommation des protéines, c'est aussi important que leur quantité. Il est donc préférable de les répartir sur la journée et de privilégier une prise dans les 30 minutes avant ou après l'exercice pour en optimiser l'absorption. En ce qui concerne les micronutriments, soit les vitamines et les minéraux, certains d'entre eux jouent un rôle fondamental, dans la pratique sportive à cet âge. Alors retenons l'importance du magnésium, calcium et de la vitamine D. À quoi sert le magnésium? Bien, il favorise la récupération musculaire et la formation des os. Ce micronutriment se trouve dans des aliments comme le son de blé, le fromage, les graines de tournesol, de citrouille, pardon, et les graines de lin. Quant au calcium, il est essentiel pour maintenir une minéralisation osseuse adéquate et prévenir la perte de densité minérale osseuse, ce qu'on appelle l'ostéopénie, qui mène éventuellement à l'ostéopause, associée à la carence...
en chantant ou presque.
Ben, c'est parce qu'on en entend tellement parler, oui. Je pense que les femmes, on est très affectées par cette ostéoporose, ostéopénie, etc. Alors, associée à des carences de cet élément dans le sang. Traditionnellement, l'un des grands alliés de la santé osseuse est la consommation de produits laitiers, tant pour leur biodisponibilité en calcium que pour leur apport en vitamine D dans leur version laitière issue du lait entier. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est la biodisponibilité.
Mais en effet.
C'est le degré et la rapidité avec lesquels un médicament passe dans le sang et atteint son site d'action. Je reviens sur les produits laitiers issus du lait entier, parce que si on veut remplacer les produits laitiers, soit parce qu'on est intolérant, il y en a de plus en plus d'ailleurs d'intolérance par rapport aux produits laitiers, ou soit par choix, ben on peut incorporer dans son régime alimentaire les légumes verts, les légumineuses, légumineuses comme les lentilles, les haricots, les pois chiches, le tofu à base de calcium. On peut aussi penser aux fruits secs. Oh, ça, c'est pas désagréable, hein? Des amandes, des figues, des dattes. On pense aussi aux graines, comme les graines de sésame et les graines de chia et, bien sûr, bien d'autres aliments de cette nature. D'autres aliments, donc, d'origine végétale, comme la pâte de sésame, les amandes, les graines de lin, le soya et les noisettes, sont considérés comme des sources de calcium, mais pas facilement absorbables, semble-t-il. Enfin, les poissons gras, on pense au thon, à la sardine, au saumon, et les jaunes d'œufs sont considérés comme des sources complémentaires de vitamine D dans le cadre d'un schéma alimentaire axé sur les personnes de plus de 50 ans qui pratiquent une activité physique. Alors, on a toute une liste d'ingrédients là qu'il faut mettre sur son frigo pour faire de l'exercice et préserver nos os et nos muscles. Il est tout aussi important de maintenir une bonne hydratation avant, pendant et après l'exercice. Puis même quand on ne fait pas d'exercice, hein, Hélène, vous avez toujours votre bouteille d'eau à côté de vous, n'est-ce pas?
Toujours, ma bouteille d'eau et mon café.
Oui, bon, OK. On pourra discuter de cet amalgame, là, mais bon. Mais la déshydratation et la surhydratation peuvent toutes les deux affecter les performances et augmenter le risque de blessures musculaires. Donc, toujours trouver l'équilibre. Jusqu'à présent, on a surtout abordé donc dans l'article le lien entre alimentation, performance physique et risque de blessures. Mais il y a un autre facteur qui entre en jeu. Vous le devinez, Hélène, c'est le type d'exercice pratiqué. Sur ce point, semble-t-il que le débat reste ouvert. De nombreuses recherches s'intéressent aujourd'hui à l'activité physique la plus appropriée en fonction de l'âge, du sexe ou de la composition corporelle. Faut-il privilégier les exercices de force, alterner avec des séances de cardio ou encore répartir les deux sur des jours différents? Bon. je pense qu'il faut aussi se fier à nos intérêts personnels pour faire ces choix-là. Tout en étant bien conseillé peut-être par des kinésiologues et notre médecin. Cependant, malgré les différentes théories sur le sujet, une chose est claire. L'exercice régulier, adapté aux capacités de chacun et accompagné d'un bon suivi médical et nutritionnel, réduit le risque de multiples maladies et améliore la qualité de vie. Alors, je vous souhaiterais un bon entraînement, bien appuyé par une bonne alimentation.
Grand merci, Monique. Je reviens à cette journée québécoise du parrainage civique qui est célébrée aujourd'hui, 25 septembre. Parrainage civique Montréal dévoile une vidéo mettant en lumière l'impact de ses actions auprès de personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, ainsi que celui des bénévoles qui les accompagnent. La vidéo met en lumière 4 jumelages à travers des moments simples et sincères. D'une durée de 1 minute 30, la vidéo ainsi que les portraits de ces 4 jumelages sont disponibles sur le site www.parrainagemontréal.org/portrait. Parrainage civique Montréal lance aussi un appel à l'engagement. Une 40aine de membres attendent actuellement un jumelage, devenir parrain ou marraine, c'est rejoindre une communauté de bénévoles passionnés et vivre une expérience humaine unique fondée par l'amitié, le partage et la découverte. Rappelons que cette journée québécoise initiée par le Regroupement québécois du parrainage civique, dont le chanteur Marco Cagliari est le porte-parole depuis 2015, souligne le travail d'une 20aine d'organismes engagés pour l'inclusion sociale au Québec.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Merci de le faire. On est ensemble encore une bonne heure. À venir, la chronique d'Yvan Deslauriers. Mais juste avant, une chanson pour souligner la francophonie. En fait, c'est la journée franco-ontarienne. On en parlait hier avec notre chroniqueur Julien Caillouette. Voici donc Mon beau drapeau. Version nouvelle génération, vous allez peut-être reconnaître des voix telles celles de Daniel Robitaille, Véronique Diquet, Robert Paquette. Voici donc Mon beau drapeau.
Dans ce pays blanc, ils ont su donner tellement d'enfants qui, une fois devenus grands, ont résisté aux conquérants. Je te chante mon beau drapeau.
D'être encore là.
donne quasiment le goût de devenir franco-ontarien.
Oui, le 25 septembre, c'est aujourd'hui. Bonne journée à tous les francophones ontariens. Yvan Deslauriers, bonjour.
Bonjour, Hélène Denis.
Yvan, vous allez nous parler du marathon et aussi d'une personne assez exceptionnelle qui a fait le marathon à l'âge de 80 et plus.
Oui. En fait, il y a beaucoup de personnes exceptionnelles qui ont fait, juste entre vous et moi, juste faire un demi-marathon, ce que j'ai jamais fait dans ma vie. C'est, pour moi, c'est exceptionnel.
Je suis bien d'accord.
Mais il y en a qui ressortent un petit peu du lot. Moi, j'avais affaire au centre-ville les deux jours en fin de semaine, le samedi et le dimanche, je prenais le métro. C'était vraiment impressionnant de voir sur le quai du métro les gens qui étaient là, qui étaient préparés pour aller courir avec évidemment leur habit de course, mais leur dossard et tout ça. C'était vraiment une belle activité pour tous. Et c'est justement un peu ce que le journaliste Jean-Philippe Arcand nous raconte dans la presse du 21 septembre. Ça s'appelle « Marathon bénévole de Montréal, le sport pour tous ». Souvenez-vous de dimanche dernier, pardon, la petite fraîcheur matinale a vite fait place à un soleil radieux au-dessus de Montréal. Presque aussi radieux, en fait, que le visage et les sourires des participants au marathon bénévole alors qu'ils franchissaient le fil d'arrivée au parc Maisonneuve. Ils étaient 32 500 à participer au cours du week-end, une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. Du nombre du 32 500, il y en avait 19 000 qui étaient en action dimanche pour les épreuves du demi-marathon et du marathon. Beaucoup de fous qui couraient. Dans une ambiance des plus festives, ces coureurs se sont élancés dès 7h45 au parc Jean-Drapeau, sous les encouragements de leurs proches et de nombreux curieux massés le long des rues. Une fois arrivés à destination, c'était l'extase, du moins pour ceux qui n'ont pas nécessité un petit coup de pouce de la part du personnel médical. Aucun incident majeur à signaler à cet égard, nous assure-t-on. Quelques-uns ont célébré leur exploit en lançant une sorte de cri primal qui voulait tout dire. D'autres ont finalement permis à leurs jambes endolories de céder afin de se laisser choir dans les bras de parents et amis, laissant couler quelques larmes de joie au passage. En regardant tout ce beau monde à l'œuvre, un constat a frappé d'emblée. Impossible de dresser un profil type des participants à ce marathon, tant le contingent est diversifié. Jeunes, moins jeunes, athlètes d'expérience, sportifs du dimanche, de tout pour tous les goûts, vraiment. On a même pu croiser un duo d'influenceurs courant dans un seul et même costume de teckel ou de chien saucisse, si vous préférez. Chacun ses défis, on suppose. Prenez par exemple Nalia Brunet-Picoulic. À 12 ans, elle était la plus jeune participante au demi-marathon cette année. Il s'agissait de sa troisième épreuve de 21,1 km. Elle qui a commencé la course à pied dès son 10e anniversaire. Elle courait dimanche aux côtés de sa mère, Ludmila. Alors Nalia nous dit « J'aime vraiment la sensation de courir. J'aime vraiment courir longtemps et ne jamais vouloir arrêter. J'aime vraiment aussi la fin quand il y a tous les encouragements. » On remarque au passage, en fait, le journaliste remarque au passage que la jeune fille ne semble pas essoufflée un instant, même avec un demi-marathon tout frais dans le corps. Et elle dit « J'ai eu un peu mal aux jambes durant la course, mais c'est correct. » Pour l'instant, sa mère réplique, « Pour l'instant, on court à la même vitesse, mais ça ne sera pas long qu'elle va me dépasser. Ce n'est pas grave, j'ai hâte que ça arrive. » Nalia serait-elle prête à relever le défi d'un marathon complet l'an prochain? Elle dit, « J'aimerais bien essayer. » Et là, sa mère répond, « Va falloir que maman se mette à l'entraînement si elle veut faire un marathon l'année prochaine. » Puis, à l'autre bout du spectre, vous avez un homme comme Mario Landreville, âgé de 80 ans. Et quelques mois, prend-il soin de préciser. Le résident de Drummondville compte pas moins de 365 courses de toute distance à son actif, allant d'un 5 km aux ultramarathons.
Une par jour.
Oui, c'est ça, une par jour pendant un an.
Oui.
Mais maintenant, je fais juste des demi, c'est moins rough, admet celui qui dit participer à une course tous les week-ends. Monsieur Landreville s'est tourné vers la course à pied à 42 ans. Question de se mettre en forme et d'atténuer l'asthme qui l'accablait. Les débuts ont toutefois été ardus, alors qu'il n'était même pas capable de faire le tour du bloc, dit-il. Son premier marathon, en 1990, ça fait quand même 35 ans, à Ottawa, n'a pas été des plus reposants. Il nous raconte, après ça, j'avais dit, plus jamais de ma vie, c'est fini. J'avais eu de la misère, et dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de monde. Quand je suis arrivé, ils étaient en train de ramasser les clôtures. Ma femme pensait que j'étais rendu à l'hôpital. Comme quoi, il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Aujourd'hui, avec 360 médailles issues de diverses compétitions partout dans le monde, il s'estime choyé par la vie de pouvoir encore pratiquer l'activité qui l'anime et d'inspirer la nouvelle génération au passage. C'est ça qu'ils me disent, en tout cas, lance-t-il l'étincelle dans les yeux. Qu'est-ce qui explique que la course à pied attire un public si large et diversifié? Pour Alex Raté, directeur général de Courons Montréal, qui organise le marathon Beniva, il faut revenir au temps de la pandémie pour expliquer le phénomène. Durant la COVID, il n'y avait pas plein de choses qu'on pouvait faire. Les arénas étaient fermés, les gymnases étaient fermés, les gens ont dépoussiéré leurs vieilles espadrilles qu'ils avaient dans le garde-robe, ils les ont enfilées et ils ont commencé à courir. Ainsi, des groupes de coureurs se sont formés petit à petit. Et de fil en aiguille, ces groupes sont devenus une vaste communauté. De plus, l'effet d'entraînement n'est pas à négliger. Le processus décisionnel de s'inscrire à une course ou commencer à courir, c'est lorsqu'on voit quelqu'un courir. Dès le lendemain, ça sème une petite graine dans la tête des gens. Pour moi, on parle de M. Raté, pourquoi moi, je ne serais pas capable de courir? Une question qui est sans doute revenue dans l'esprit de plusieurs participants cette année et à laquelle ceux qui voudraient courir l'an prochain, jeunes ou moins jeunes, tenteront sûrement de répondre à leur tour.
Est-ce que vous savez combien de personnes se sont inscrites? Ah, 32 500! Wow!
Oui, ça c'est sur les deux jours. La première journée, il y avait des courses de 1, 5 et 10 kilomètres.
Mm-hmm.
Et la deuxième journée, c'était le demi et le marathon. Et sur 32 500, il y a beaucoup plus que la moitié, 19 000 qui ont couru et le demi-marathon et le marathon.
Une hausse de 20 % par rapport à l'année dernière, là, si on calcule sur les deux jours.
Exactement.
Ouais.
Et petite anecdote, je revenais à la maison en autobus et puis... il y avait une jeune dame qui était là avec sa médaille. Elle venait de toute évidence de courir soit le demi ou le marathon, mais elle boitait fortement.
Oh.
Puis quand elle a descendu de l'autobus, elle a fait un « ouch ». Puis là, je me suis retourné pour lui demander est-ce qu'elle avait besoin d'aide, tout ça. Puis elle a dit « non, je reste pas loin de là ». Puis là, j'ai répondu « c'est quand même dur hein, d'être en santé
». Jean-Philippe Arcan, donc, qui signe cet article « Le sport pour tous ». Puis vous aviez d'autres choses aussi à ajouter, là.
Oui, rapidement. C'est un témoignage qui était dans la presse d'hier, il me semble, ou avant-hier plutôt. Je cours toujours à 88 ans. Un monsieur Robert Dion du lac Brompton qui fait ce témoignage. Il nous dit « Courir procure un sentiment unique d'euphorie et de liberté. C'est une véritable thérapie pour l'esprit. Elle libère du stress et favorise la santé mentale. À 88 ans, les bienfaits de l'activité physique quotidienne lui permettent de rester motivé, actif et heureux lors d'un effort intense et d'une pratique sportive exigeante. Il prend pleinement conscience à quel point sa forme physique est essentielle pour nourrir son énergie et sa vitalité. Il est à la retraite depuis l'été 1998 et il s'était engagé à suivre un programme d'entraînement cardio-respiratoire afin de préserver un mode de vie sain le plus longtemps possible. Depuis, ses journées commencent tôt. Il se lève à 5 heures pour commencer son entraînement et à 6 heures, il part pour un parcours de 7 km composé d'une marche rapide de 3,5 km suivie d'une course de 3,5 km. Et le samedi, une petite course de 10 km qui est devenue un incontournable dans sa routine. Pour beaucoup, il paraît inimaginable qu'à 88 ans, on puisse courir un 10 km en 1 heure 8 minutes. Pourtant, je ne suis pas un athlète et je n'utilise aucun complément sportif. J'ai simplement découvert qu'avec un entraînement quotidien régulier, le corps humain recèle une énergie insoupçonnée et souvent sous-exploitée. Et je termine par une anecdote. Il dit, le 30 septembre 2018, il a couru avec sa petite fille, Émilie, qui était alors âgée de 27 ans. Émilie avait dit à sa mère, qui est sa fille, en fait, la fille du monsieur, « Je ne peux pas laisser mon grand-père octogénaire faire un meilleur temps que moi. » Alors, à l'arrivée du 10 km, Émilie a triomphé. Elle avait couru en 59 minutes 41 secondes, tandis que le temps de son grand-père était de 1 heure 1 minute 42 secondes. Alors, il dit, ces deux petites minutes d'écart restent pour nous un souvenir inoubliable, rempli de complicité et d'émotion.
Wow! Alors, si on veut lire le texte au complet, « Je cours toujours à 88 ans », c'est Robert Dion dans la presse du 23 septembre. Merci, Yvan.
Assise au jardin, tu écoutais du jet. La vie était parfaite sous le soleil de Nantucket. En écoutant jet sous le soleil de Nantucket, comme on était loin. Toi dans ton hamac, tu lisais du Kerouac. Moi j'écoutais Chet sous le soleil de Nantucket. La vie était parfaite sous le soleil de Nantucket. J'avais l'impression de n'y être pour rien. Tellement j'étais bien sous le soleil de Nantucket. Comme une chanson de Chet, un couplet, un refrain. Ainsi la vie est faite sous le soleil de Nantucket. Et la brise brisait et les vagues divaguaient. Moi j'improvisais pendant que tu dormais. Heureux sous le sunset, c'était l'été à Nantucket. La vie était parfaite sous le soleil de Nantucket. J'avais l'impression de n'y être pour rien. Tellement j'étais bien sous le soleil de Nantucket. une chanson de chat, un couplet, un refrain, une improvisation sous le soleil de Nantucket. Ainsi la vie est faite sous le soleil.
Situé dans le Massachusetts, c'était la chanson Nantucket de Daniel Lavoie.
Très belle chanson. Hein, quelle voix, celle de Daniel Lavoie. Monique, allons-y donc avec les brèves. Yvan est là également. Briser les silos pour mieux accompagner les personnes considérées comme obèses.
Oui, alors il s'agit du projet de recherche Colab Inter 360 Obésité qui se veut un véritable laboratoire d'idées et d'actions pour briser les silos et repenser l'accompagnement de personnes considérées comme obèses. Alors à Montmagny, une communauté d'apprentissage de différents secteurs est en train de prendre vie. Il y a des patients, des professionnels de la santé, des intervenants communautaires, des décideurs et des résidents qui s'unissent pour trouver des approches plus humaines et mieux adaptées aux réalités des personnes atteintes d'obésité. Vous demandez peut-être, Hélène, pourquoi Montmagny? Ben, c'est que dans ce milieu rural de Chaudière-Appalaches, le vieillissement rapide de la population entraîne une hausse marquée des cas d'obésité. Préoccupée par cette réalité, Laurence Berthelet, qui est professionnelle en santé publique et habitante de Lévis, s'est demandé comment mieux soutenir les personnes considérées comme obèses, un terme d'ailleurs recommandé par le collectif Vital pour réduire la stigmatisation. Faut savoir que l'obésité est reconnue comme une maladie chronique, complexe, qui touche quand même 27 % de la population canadienne. Elle entraîne de la morbidité, de la mortalité, et de la stigmatisation. Or, notre système de santé reste trop centré sur les soins et ne prend pas suffisamment en compte la prévention et les déterminants sociaux. Donc, l'initiative innove en misant sur la force du groupe pour bâtir une communauté d'apprentissage où chaque participante et participant peut raconter ses expériences et contribuer à trouver des solutions concrètes pour améliorer la qualité de vie et les parcours de soins des personnes considérées comme obèses. Il y a des consultations locales, ateliers collaboratifs, discussions ouvertes, autant de leviers proposés pour nourrir la réflexion. À terme, bien, ce projet pilote vise une implantation plus large au Québec autour d'autres thèmes de la santé. Redonner le pouvoir d'agir aux patients, c'est aussi sensibiliser les gens à ce qu'ils vivent et aux ressources disponibles sur leur territoire. Alors, on espère que cette implantation se fera rapidement à l'échelle du Québec.
Merci. Yvan, vous avez des suggestions de tours d'observation pour admirer les couleurs automnales?
Oui. Alors, la semaine dernière, je vous suggérais d'aller voir la carte de l'évolution des couleurs. Évidemment, cette carte-là est toujours d'actualité. Je pense qu'il y a une mise à jour, d'ailleurs, aujourd'hui.
Sur le site bonjourquebec.com, est-ce que c'est ça?
Exactement. Et toujours dans le site espace.ca, on trouve un article qui parle de 5 tours d'observation pour avoir la meilleure vue sur les couleurs d'automne. Et je vous parle particulièrement de la première suggestion. Ça s'appelle le Sentier des Cimes. C'est à Mont-Blanc, dans les Laurentides. Non seulement c'est une tour d'observation très, très, très spéciale, je vous en dis quelques mots dans quelques instants, mais c'est aussi un site qui est recommandé par Kérol. Donc, c'est un site qui est accessible même pour les gens en fauteuil roulant. Donc, facilement accessible et pensé pour tous, le Sentier des Cimes propose une marche douce sur une passerelle de bois jusqu'à une tour de 40 mètres dominant la canopée. Mais la passerelle a fait le tour comme un tire-bouchon, en fait, jusqu'en haut des 40 mètres. Et la pente est vraiment douce. Alors, c'est un objectif qui est assez, pas nécessairement facile, mais qui est atteignable pour la plupart des gens.
Ouais.
En famille, avec une poussette, ou simplement pour le plaisir d'un panorama sans effort démesuré, c'est l'un des plus beaux points de vue des Laurentides. Le sentier totalise environ 2,7 km aller-retour.
Au Mont-Blanc, donc?
Oui, tout près de Montréal.
La neurogénèse, qu'est-ce que c'est? La neurogénèse se poursuit-elle tout au long de la vie, Monique?
Alors, la neurogénèse, Hélène, c'est la formation de nouveaux neurones.
Ah, d'accord.
Ben alors, oui. Des cellules progénératrices de neurones ont été identifiées dans le tissu cérébral de personnes âgées de 0 à 78 ans. Les chercheurs ont démontré que le cerveau humain continue de produire de nouvelles cellules nerveuses jusqu'à l'âge adulte, et bien plus, puisqu'on a testé jusqu'à des personnes ayant 78 ans, et notamment dans une partie de l'hippocampe qui, on se le rappelle, essentielle à la mémoire. Au-delà donc de la cognition, cette neurogénèse adulte offre une lueur d'espoir pour la prise en charge de maladies neurodégénératives. Alors, c'est une bonne nouvelle que cette neurogénèse qui se poursuit tout au long de notre vie.
Absolument, une bonne nouvelle. On en veut plus, on en veut toujours. Yvan, ben continuez avec vos suggestions de tours d'observation là, pour admirer les couleurs d'automne.
Pour les couleurs de l'automne, on s'en va du côté de Saint-Donat dans les Laurentides. Dans la Naudière, pardon, à la Montagne Noire.
C'est, après le Mont Blanc, la Montagne Noire.
Ah, ben oui, j'avais pas pour voir les couleurs.
Bon, oui.
Tantôt, la tour d'observation mesurait 40 mètres. Dans ce cas ici, elle mesure, c'est beaucoup moins, il me semble. Point culminant de la municipalité de Saint-Donat, la Montagne Noire abrite une tour d'observation de 11 mètres, construite en 2017. Sauf que c'est pas avec une passerelle, c'est avec des escaliers. On y accède par un parcours de 13 km aller-retour, idéal pour une journée complète en forêt. Et là, ça, c'est comme le cadeau à la fin. Au sommet, la tour offre une vue dégagée sur les Laurentides et par temps clair jusqu'à Montréal. Et vous verrez dans l'article, la plupart des tours sont décrites en nombre de mètres, mais on ne dit pas le nombre de marches. Alors, moi qui ai eu un petit problème cardiaque pendant l'année, je suis très intéressé par le nombre de marches.
On vous comprend. pourquoi le mot poil ou poêle, je ne sais pas comment on le prononce, il y en a qui disent poêle.
Je pense que ce serait plus poil.
Et non poil. Alors, poil a-t-il deux genres? Pourquoi ce mot a-t-il deux genres?
Ben, peut-être vous vous êtes pas posé cette question, Hélène, mais je la trouvais amusante, un petit peu d'histoire linguistique, peut-être sémantique. Alors, le poêle qui nous réchauffe et la poêle dans laquelle on fait sauter les aliments ont des genres différents, tout simplement parce qu'ils ont des origines différentes. Alors, le mot poêle, qui est de genre masculin, vient du mot latin pensilis, qui signifiait suspendu. Bon, vous demandez, c'est quoi le rapport?
On se demande toujours plein de questions.
C'est tout à fait normal. Alors, autrefois, les bains chauffés étaient à l'étage et on les chauffait par le dessous. N'est-ce pas charmant? Alors, on dit le poêle parce que pensilis était du genre masculin. Quant à la poêle, ben, ce mot vient de paele, P-A-E-L-E, qui signifiait chaudron en latin. Et puis, on peut aussi ajouter, Hélène, que le mot espagnol paella vient aussi de paella. La paella est un mets espagnol que l'on aime tellement qu'on prépare dans une poêle.
Et alors, non, voilà. Une poêle et un poêlon, est-ce que c'est la même chose?
Ah, un poêlon, ouais, c'est une bonne question.
Et aussi, j'ai commis un impair, j'ai dit « se demande une question » au lieu de se poser une question, on pourrait faire la lumière là-dessus. Merci Monique, merci Yvan. À la semaine prochaine.
Vous pouvez rejoindre
Quotidien avec Hélène Denis.
Oui, merci de le faire. Et on parle maintenant avec Dominique Tremblay. Au parasport, Dominique, ça va?
Oui, ça va bien.
Super. On commence à parler des championnats du monde de paranatation.
Oui, ça se déroule présentement à Singapour. La compétition a commencé en fin de semaine dernière et se déroule jusqu'à samedi. Jusqu'à présent, le Canada a remporté 2 médailles d'or et a un total de 8 médailles. Il se classe 16e au total des médailles d'or et 10e au total de toutes les médailles. Je voudrais souligner la belle performance à ce matin, heure du Québec, mais en soirée à Singapour, il y a 12 heures de décalage horaire, de Daniel Doris qui a remporté la médaille d'or aux 50 mètres brasse. C'est sa 3e médaille d'or consécutive lors de championnat du monde. Elle est ici doublement médaillée d'or aux Jeux du Paralympique, donc de Tokyo et de Paris. Elle est aussi une détentrice du record du monde, pardon. Donc, elle est dominante sur cette distance dans la catégorie S7. C'est par rapport à leur niveau d'handicap que les athlètes sont classés. Donc, embrasse Daniel Doris et toujours la femme à battre. Elle fait quand même une course intéressante. Daniel Doris a pris à peu près une demi-longueur d'avance dans la première partie de la course. Mais une athlète des États-Unis a tenté un retour. Mais Daniel a été la première à toucher au mur pour faire arrêter le chrono. Il y a une différence de 3 dixièmes de seconde entre Daniel Doris et l'athlète américaine. Et Daniel a réussi sa performance avec un record des championnats du monde. Je voudrais aussi parler de Nicolas Guy Turbide qui faisait un retour sur sa distance de prédilection, le 100 mètres d'eau. Depuis 2 ans, avait arrêté de nager cette distance parce qu'ils avaient des problèmes de santé. Ils ont été capables au mois d'avril de finalement mettre le doigt sur ce qui l'ennuyait. C'est écrit là dans les communiqués de presse, une difficulté à assimiler le mercure à chaque fois qu'il mangeait du poisson. Donc, il y avait une intoxication au mercure. Maintenant, c'est réglé. Pour la première fois, a réussi à bien compléter le 100 mètres d'eau et a quand même réussi une très belle performance en terminant 4e en un temps de 59 secondes 87 centièmes. Son objectif avant d'arriver à Singapour était de faire la course en 1 minute. Donc, il a réussi de battre ce temps-là par 13 centièmes de seconde.
Il a donc réussi à manger du poisson sans mercure, c'est ce qu'on souhaite, c'est ce qu'on lui souhaite, oui, c'est ce qu'on nous souhaite à nous aussi.
Oui, c'est ça, ou du moins, il a été capable de changer son alimentation pour manger moins de poisson, ce qui permet, parce qu'il n'était pas capable d'assimiler le mercure qu'on retrouve dans
certains poissons, oui.
Dans certains poissons. Donc, là, il est reçu et est très content de cette performance-là. Et il a dit après la course qu'il était de retour et qu'il sera à surveiller au cours des prochaines années. Et je voulais souligner aussi qu'à la mi-course, il était à 1 centième de seconde de la 3e place, mais a manqué un peu de jus là avant la dernière longueur de distance. Donc ça prouve que c'est un petit peu un manque d'endurance, un manque de forme physique, mais ce qui est tout à fait normal dans le cas de Nicolas Guy Turbide, puisqu'il revient d'un gros, c'est pas une blessure, là, mais d'un problème physique qui l'empêchait de performer sur des plus longues distances.
Mmh, donc, il est quand même sur une côte ascendante.
C'est ça, c'est très bien pour lui.
Oui, alors du championnat du monde de paranatation, vous passez au championnat du monde de para-tir à l'arc.
Oui, c'est ça. Les archers avec une déficience physique se retrouvaient un peu plus au nord, en Corée du Sud, à Gwangju exactement, pour le championnat du monde de tir à l'arc, de para-tir à l'arc. La compétition va se terminer le 28 septembre prochain. En individuel, là, il y avait Kirk Tremblay a été éliminé en ronde des 32e, donc à peu près une 19e place. Même chose là, pour un autre athlète du Québec, que j'ai oublié le nom, si je le retrouve, je vais vous le dire. Et les deux mêmes athlètes vont se compétitionner maintenant en double par équipe. Ils ont fait la ronde de qualification, ont terminé en 10e place et vont maintenant passer à la ronde aux éliminatoires et les finales seront présentées un peu plus tard.
Et vous terminez avec les compétitions de curling en fauteuil roulant?
Oui, bien, il y a une compétition qui se déroule à Kitchener-Waterloo en fin de cette semaine. L'équipe canadienne accueille l'Italie et la Grande-Bretagne. L'équipe canadienne est divisée en deux équipes, donc l'équipe rouge et l'équipe blanche. Et ils font un double tournoi à la ronde jusqu'à dimanche. Ils ont maintenant présentement chaque équipe a joué deux matchs jusqu'à présent. L'équipe rouge est présentement en tête du classement avec deux victoires. Et sur cette équipe, il y a Colinda Joseph qui est sur cette équipe et elle reste à Ottawa. C'est une préparation pour, évidemment, les Jeux paralympiques d'hiver qui vont avoir lieu à Milan et Cortina. De la Grande-Bretagne, évidemment, et l'équipe hôte, l'Italie, y seront aussi. Donc, c'est une très belle préparation. Les finales seront présentées à London dimanche dans le cadre d'un gros tournoi de curling qui s'y déroule. Ça s'appelle le Grand Slam. C'est pour le curling est régulier, donc c'est pas pour les personnes handicapées, mais il va quand même avoir la finale de la médaille d'or et la finale de la médaille de bronze qui seront présentées lors de la dernière journée du Grand Slam de curling. Ça va être intéressant pour les spectateurs.
Merci beaucoup pour cette chronique, Dominique Tremblay. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci. Bonne journée. Bye-bye.
Le silence est grand, plus je t'entends. C'est une pièce de Viviane Audet.
Et je parle avec Brigitte Henkins, qui est en studio devant moi. Ça me fait très plaisir de vous rencontrer, Brigitte Henkins.
Moi aussi, je suis ravie.
Une femme de théâtre, une femme de lettres, metteuse en scène, qui a fait plein de choses et depuis plusieurs années. Et elle vient nous parler du spectacle littéraire Une famille à Bruxelles qui prend l'affiche du Théâtre Outremont un soir, le 2 octobre. C'est un seul en scène avec Monique Spaziani, la très bonne Monique Spaziani. Et Brigitte Henkins, vous êtes associée au montage, à la conception vidéo?
Ben, en fait...
à la mise en lecture,
c'est tout
surtout.
Oui, c'est ça. Parce que c'est tout simple. Il n'y a pas de moyen comme d'une production. Donc, en fait, c'est une mise en lecture. Donc, avec Monique, on a discuté pour en faire une version un peu plus courte que le livre. Parce que quand même, en lecture, là, il ne faut pas abuser de la patience de l'auditeur. Puis au contraire, lui donner beaucoup de plaisir, mais
oui.
Sans le lasser aussi, parce qu'il n'y a pas d'effet scénique. Là.
OK. Donc, alors, comment ça se passe? Là? Bien, premièrement, dites-nous, qu'est-ce qui se passe dans Une famille à Bruxelles? Qu'est-ce que ça raconte?
Alors, c'est un texte, un des récits qu'a fait Chantal Akerman, donc qui est une cinéaste culte.
Extrêmement productive, là, qui a fait une quarantaine de films, qui est morte malheureusement.
Oui, qui s'est donné la mort, ouais. Enfin, il faut le dire quand même, parce que ça parcourt son œuvre, cette notion de mort.
Ouais.
Elle est belge, mais ses parents sont polonais, juifs. Ça aussi, ça fait partie de son imaginaire. Donc, sa mère a été dans les camps de concentration, ses grands-parents y sont restés. Et puis, elle est quand même beaucoup habitée par et la judéité et la mort, mais c'est en même temps une œuvre qui est pleine de cœur et d'espoir. Là. Puis dans Une famille à Bruxelles, elle raconte en fait le présent de sa mère à elle, Chantal, ou en tout cas... sa mère fictive, mais je pense que c'est sa mère réelle. Mm-hmm. Donc, dans son appartement, après la mort de son mari, qui, en fait, attend les téléphones de ses filles. Puis, c'est juste le récit de la vie quotidienne de cette femme qui pense toute seule et qui essaie de s'accrocher à la vie, tout en... un peu comme Winnie de Beckett, là, dans les Hauts les beaux jours. Tout est merveilleux. Ma fille va m'appeler, tout va très bien.
Elle est dans le déni.
Elle est dans le déni, oui, totalement. Puis, de temps en temps, la voix devient celle de la fille. Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, Chantal Akerman va à Bruxelles à la suite de la mort de son père. Puis, tout d'un coup, c'est la voix de Chantal. Mais,
c'est un défi pour la metteuse en...
L'actrice
surtout, oui. Et la metteuse en lecture.
Oui, puis en même temps... C'est écrit dans la plus grande simplicité. Il n'y a pas de pause. C'est un monologue complètement continu.
Mais il y a un changement, j'imagine, dans l'intonation de la voix.
C'est ça.
Ouais.
Mais c'est très, très simple. Puis ça, c'est très beau à cause de cette simplicité, un peu comme les films de Chantal Akerman aussi. Bon, certains pourraient les trouver avant-gardistes.
Oui, un peu obtus.
Mais moi, personnellement, j'ai été... Chantal Akerman, c'est quand même... je pense qu'elle est née en 1950, donc on est de la même génération. Donc peut-être c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Mm-hmm.
Est-ce que vous avez eu le plaisir ou la chance de la connaître, de la rencontrer?
Non. Malheureusement, non. Non, parce que le monde du cinéma puis le monde du théâtre sont quand même des mondes à...
Ouais.
C'est pareil, mais...
Mais il y a son film, Jeanne Dielman, 23, qui est du commerce 1080 Bruxelles, qui a été nommé un des meilleurs films de tous les temps.
Moi, c'est un film... Est-ce que vous l'avez vu?
Non, jamais!
Ah, mais il faut regarder ça, c'est...
Film des années 70 qui dure environ 3 heures.
Exact.
Oui. Alors, il faut avoir du temps un peu.
Puis, moi, personnellement, je trouve ça absolument fascinant comme film. Parce que justement, là aussi, elle décrit le quotidien, elle montre le quotidien d'une femme, en l'occurrence, une actrice iconique, elle aussi. Puis la voit éplucher ses patates. C'est ça. Elle montre l'aliénation aussi féminine. Non. Très intéressant parce que, évidemment, on pourrait dire que Chantal Akerman, bon, elle est féministe, mais pas. Tu sais, c'est pas porte-étendard, pas militante. Dans ses œuvres artistiques, mm-hmm. mais elle porte un regard sur la condition féminine qui est très intéressant.
Et dans la pièce ou le spectacle littéraire Une famille à Bruxelles, quels sont les thèmes qui sont abordés? Il y a, bon, justement, le deuil, là. Vous parlez de cette mère qui a perdu son homme, son mari.
Exactement. Mais ça, c'est un des thèmes principaux parce qu'elle évoque beaucoup les souvenirs qu'elle a avec son mari, puis les souvenirs de... Les souvenirs heureux quand ils étaient ensemble, qu'ils allaient au bord de la mer et tout ça. Elle parle de sa famille. Elle parle aussi de la maladie de son mari. Mais il n'y a jamais de complaisance dans la souffrance ou rien. En fait, on ne parle pas de souffrance. On parle comme si de rien n'était. Donc, elle évoque le déclin, en quelque sorte, de son mari, mais sans se plaindre.
Avec une certaine légèreté.
Oui, mais ben, c'est ça. C'est pour ça que je disais que ça me fait penser à Beckett, en fait. C'est...
Une femme enfant, un peu.
Oui, ben, c'est ça. Ça a l'air de ça. Ça a l'air de quelqu'un ben, qui prend sur elle. Donc,
ah, qui, ah, d'accord. Donc, une femme forte.
Oui, forte dans sa fragilité, en quelque sorte.
Est-ce qu'à un moment donné, il va avoir une sorte de ressac? De prise de conscience, de...
Non, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'elle nous laisse avec ça. C'est-à-dire, elle nous laisse à penser. En fait, c'est à nous de
poursuivre.
De poursuivre, et c'est à nous aussi de combler les trous dans la conversation.
Qu'est-ce qui vous a touché dans ce texte-là? Est-ce que c'est vous qui l'avez proposé au film, parce que c'est présenté à l'intérieur du Festival international de la littérature?
Ben, en fait, pour dire la vérité, en fait, c'est Michel qui me l'a proposé.
Ah oui, la directrice artistique.
C'est ça. Pensant à juste titre que cette œuvre me plairait. Je ne sais pas pour quelle raison elle a pensé ça, il faudrait lui demander, mais évidemment, il y a des points communs avec... moi, j'ai monté beaucoup d'écritures féminines aussi... que ça soit de Sylvia Plath, Louise Dupré, puis j'en passe et des meilleurs, mais Marguerite Duras. C'est... Mais moi, ce que j'aime, c'est l'honnêteté et la simplicité, l'absolue modestie de cette écriture. D'ailleurs, j'avais photographié pour vous une phrase du livre que je voulais vous lire, mais je ne sais pas si on a le temps de faire ça.
Ah oui, allez-y.
C'est pas tant du livre, mais c'est pas tant du livre que ce qu'elle a dit à un moment donné dans son quand elle s'exprime, parce qu'elle a fait beaucoup d'entrevues. Chantal Akerman, on peut la voir à bien des endroits, on peut lire ses entrevues. Elle dit: j'ai toujours eu le désir d'écrire des nouvelles, des romans ou des textes comme ça, sans qu'il y ait forcément une histoire. Du langage, un mot après l'autre. Cela peut s'appeler récit, monologue, n'importe. Simplement, j'ai eu peur de ne faire que ça, la peur de rester chez soi et de se perdre. Je savais qu'en écrivant des films, je sortirais de ma chambre.
Wow! Alors, ça nous en dit un peu plus sur l'univers, la pensée de cet artiste-là. Et on dit que ce texte-là, Une famille à Bruxelles, fait vivre une foule d'émotions avec beaucoup de véracité, mais sans jamais les nommer. Est-ce que c'est un défi pour vous, Brigitte Hennequin, de faire une mise en lecture d'un tel texte?
Absolument. Ben, aussi parce que la mise en lecture, elle pose quand même des problèmes au metteur en scène, parce que d'un côté, tu as le goût d'aller loin, mais d'un autre côté, tu ne peux pas, puisque l'actrice a quand même le livre à la main. Là.
Elle est sur la scène.
Elle est sur la scène,
avec
elle
un lutrin.
Oui, c'est ça. Alors, on a enlevé le lutrin parce qu'on trouvait ça un peu trop rigide, mais...
Pas trop de mise en place.
Non, on ne peut pas non plus faire la mise en place, que ça a l'air faiseux, là. Avec une feuille, là, c'est un peu ridicule. Donc...
Mais comment ça se passe, là? Elle est avec son livre assise?
Elle est debout. Ben là, j'ai laissé Monique vivre sa vie d'actrice.
OK.
sans trop la contraindre, pour que justement elle se sente libre de communiquer au public. Donc, en fait, elle dit, puis, tu sais, c'est dit au public, en toute simplicité, puis elle le joue quand même, mais c'est ça, bon, il faut s'arrêter à un moment donné, parce que sinon, par exemple, Monique, ça est déjà arrivé en répétition, elle se laisse emporter par le jeu, puis là, c'est trop, parce que là, elle se perd, puis il faut qu'elle revienne à ses feuilles. Donc, c'est quand même un défi intéressant, mais moi, je pense
Il n'y a pas de place à l'improvisation.
Non, pas du tout.
Non, non, non.
Mais pour le public, moi, je pense que c'est passionnant parce qu'il peut imaginer la mise en scène, en fait, en quelque sorte.
Oui, le public devient metteur en scène.
Exactement. Ouais. Il est là, il peut se dire comment il ferait ça lui-même.
Comme quand on lit un livre aussi, là, on devient réalisateur, metteur en scène.
Exactement.
Et il y a la musique de Bernard Falaise qui est décrite comme discrète, mais essentielle. Alors, est-ce que c'est vous qui avez envisagé ce dialogue entre texte, voix, musique?
Ben oui, parce que Bernard Falaise, moi, je travaille avec lui depuis 30 ans. Là, c'est un guitariste hors pair.
Oui, qui travaille avec Michel Faubert aussi.
Il travaille avec Michel Faubert et il a fait la plupart des musiques de mes spectacles. Il en a fait énormément. Oui. Puis, j'ai une confiance absolue en Bernard. Là, je connais sa sensibilité. Fait que je sais qu'il va pouvoir être à l'écoute de Monier qui va, il va pas être là pour faire son show, là, de toute façon, il n'y a pas de place pour faire un show.
Mais est-ce qu'il est sur la scène?
Il est sur la scène.
Ah oui.
Donc, il va être en
il
direct.
Ponctue.
Ouais, c'est ça. À l'écoute de Monique et avec elle, parce que de toute façon, il n'y a pas de place pour faire un petit intermède musical. Tu sais, le texte ne s'arrête jamais. Donc,
ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce texte-là, Bridget Hankins?
Je crois que c'est par transparence la mort, l'idée de la mort, bien qu'elle ne soit pas du tout pesante dans l'écriture, puis aussi tout ce qu'on sent qui n'est pas dit. C'est-à-dire, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il mentionnait une fois dans le texte les camps.
Quand, le tout. Camp de concentration.
Mais pas plus que ça.
Oui, c'est évoqué.
C'est juste nommé. Ah, c'était autrefois dans les camps.
Oui.
Puis on sait. Bon. Puis aussi, elle évoque la mère de Chantal, évoque la famille dans un pays chaud, lointain. On ne sait pas. On suppose que c'est Israël, mais on ne le sait pas. Donc, j'ai beaucoup aimé la discrétion de la force des sentiments.
Alors, c'est ce que vous aimez, pas nécessairement le non-dit, mais que ça ne clignote pas.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai horreur du pathos, là. Sur scène, personnellement, j'ai horreur du mélodrame en général. Puis, j'aime pas qu'on force les émotions non plus, parce que je trouve que le public est étouffé par ça. Puis, oui, j'aime que le public il puisse ressentir ça. Donc, j'essaie de créer un espace où le public peut faire son chemin lui-même.
Une famille à Bruxelles, c'est donc le 2 octobre au Théâtre Outremont. On invite tous ceux et celles qui
s'intéressent à la littérature.
Oui,
ben
et
oui.
Aussi au jeu de Monique Spaziani.
Absolument.
Qui joue autrement, par exemple.
Ah oui, mais moi, je la connaissais, bien sûr, comme interprète, mais je n'avais jamais travaillé avec elle. Puis c'est une découverte à Monique,
oui.
C'est vraiment...
Ah oui, donc ce sera comme une suite, peut-être? Parce que vous, quand vous avez...
j'ai un chouchou.
Vous avez un chouchou, vous le gardez. Hein? Je pense à Sébastien Ricard, Céline Bonnier, James Einman.
Oui, Anne-Marie Cadieux, oui. Avec qui j'ai fait 12 spectacles, oui. Marc Bellan. Oui, je suis très fidèle, mais là, il faut que je me dépêche parce que j'ai quand même 74 ans, donc je ne pourrais pas travailler avec tout le monde.
Qu'est-ce qui vous reste? Bien, pas qu'est-ce qui vous reste, mais pour les projets là, pour 2025-2026, est-ce que vous avez
ben, je travaille
du pain sur votre planche?
J'ai du pain sur la planche. Je travaille, justement, parlant d'écriture féminine, je travaille sur le texte d'Annie Ernaux, Passion simple, avec Julie Le Breton.
Oh, beau projet!
Oui, c'est un très, très beau projet. Là.
C'est la première fois que vous travaillez sur un texte de...
D'Annie Ernaux, oui.
Annie Ernaux,
c'est la première
ouais.
fois. Ça fait longtemps que j'ai ce projet-là, mais... Parce que je lis Annie Ernaux depuis
toujours.
Depuis toujours, oui. C'est ça. Mais j'ai vraiment la chance de pouvoir le porter à la scène au 4 sous au printemps.
Bon, alors on va vous réinviter pour en parler peut-être.
Oui, avec plaisir.
Merci beaucoup, Bridget Hankins.
Merci à vous.
Les départs sont faciles. jette le codage, je m'en vais paisiblement m'habituer à la troisième place.
C'est le titre de cette chanson, Morose, de Morose, pardon, troisième place.
Les 29e Journées de la culture, ça se déroule du 26 au 28 septembre. Plus de 2400 activités gratuites seront offertes aux quatre coins de la province de vendredi à dimanche dans le cadre de ces journées. 29e édition qui va s'articuler, dis-je bien, autour du thème « La culture fait du bien ». Et c'est vrai. Merci d'avoir écouté au quotidien. On va se retrouver lundi prochain à compter de 9h30. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une agréable journée, un beau week-end à l'avance et puis prenez soin de vous.